BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro en direct du club BFM Crypto. On est ensemble pour une demi-heure. On va beaucoup, beaucoup parler de Mika avec mes invités. Hein. Forcément, la date est passée de quelques jours, donc ça va être notre sujet principal. On va parler de Binance, des acteurs qui ont Mika, des acteurs qui ne l'ont pas, de fiscalité aussi. Mes invités aujourd'hui, Stéphanie Némarcatias, avocate fiscaliste, fondatrice du cabinet Cogit. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Pauline Hermandet est également avec moi, journaliste BFM Business. Bonjour Pauline. Bonjour. Avec nous aussi Tanguy Le Calvez, CEO et cofondateur de Goin. Bonjour Tanguy. Bonjour. Et Jérémy Stevens, expert comptable et fondateur d'Alt Finance. Merci à tous les quatre d'être dans cette émission. Vous savez, vous pouvez aussi nous écrire ou nous poser toutes vos questions sur le secteur crypto à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. On vous répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto. C'est parti. Pauline Hermandet, je commence par vous. On s'intéresse à Binance. Faute d'avoir obtenu l'agrément MiCA à temps, les services de Binance ont cessé dans plusieurs pays européens, dont la France. On avait 2 millions de clients dans le pays sur cette plateforme. Qu'est-ce que les clients peuvent encore faire à ce jour?
Alors, c'est vraiment très limité. Aujourd'hui, ils peuvent uniquement faire des retraits, les retraits de leurs fonds. Donc, c'est clairement, effectivement, une mauvaise nouvelle pour les clients. Eux qui étaient habitués au trading, c'était un peu la marque de fabrique de Binance jusqu'à présent. Donc, c'est un peu la douche froide. En fait, quelques jours avant la fin de la deadline donc pour obtenir MiCA, donc le 1er juillet, Binance avait indiqué à ses clients, en gros, que leurs fonds étaient en sécurité, mais la plateforme les orientait déjà soit à transférer leurs fonds vers une plateforme MiCA, donc régulée, soit vers un portefeuille crypto froid. Et en France, pour les clients de Binance, il y a à peu près deux options en ce qui concerne les plateformes régulées. Soit on a 31 acteurs crypto régulés MiCA auprès de l'AMF, vers lesquels ils peuvent se reporter. Soit on a plus de 280 acteurs qui ont obtenu MiCA auprès d'un régulateur européen. Donc ça leur laisse évidemment quelques acteurs à contacter pour transférer leurs fonds. Et sinon, évidemment, des portefeuilles crypto qu'on connaît bien, Ledger.
Oui, c'est ça. Et après, faire son choix, mais garder ses cryptos sur sa clé, par exemple. Vous avez demandé à plusieurs clients français de Binance ce qu'ils ont fait, que vous ont appris ces témoignages, Pauline.
Alors, la plupart des clients, évidemment, m'ont indiqué qu'ils s'attendaient un peu à ce que finalement Binance n'obtienne pas l'agrément MiCA, puisqu'on arrivait vraiment au bout de l'échéance. Et donc, beaucoup ont transféré leurs fonds vers d'autres plateformes. Pas forcément des plateformes MiCA françaises, c'est plutôt des étrangères, américaines, allemandes, des plateformes vers lesquelles ils se sont tournés. Il y a une des clientes qui m'explique qu'elle veut pouvoir garder la main, je la cite, sur ses crypto-monnaies et les échanger rapidement sur, si besoin. Donc c'est pour ça qu'elle a décidé de réaliser ce transfert. Et puis il y a un autre client qui a quand même indiqué que même si Binance, en fait, invite ses utilisateurs à se tourner vers d'autres plateformes, Binance n'explique pas vraiment comment, techniquement même, transférer ses cryptos. Donc il explique que pour une personne qui est un peu novice ou qui avait juste laissé ses cryptos sur cette plateforme, ça peut vite devenir très intimidant de procéder à ce transfert. Donc c'est pas si simple que ça dans des temps un peu impartis, soit avant le 1er juillet, soit après, mais de manière un peu précipitée.
Bon, il y en a compris large, on l'a vu, c'est pas le cas de tout le monde malgré tout, Pauline.
Alors non, il y a d'autres clients qui se disent assez rassurés par la communication de Binance, qui continue d'envoyer des emails à ses clients, ils tentent vraiment de rassurer. On l'a vu aussi sur les flux de la blockchain, qu'il n'y a pas non plus de retrait massif aujourd'hui des clients de Binance vers d'autres sociétés crypto. Mais voilà, c'est des clients quand même qui doivent comprendre qu'ils vont laisser leur crypto un peu dormir sur une plateforme au risque. On ne sait pas, hein, ça c'est des hypothèses, mais qu'il y ait peut-être certains soucis et donc que leur crypto ne soit pas forcément en sécurité. C'est un peu le risque aujourd'hui qui est pris par les clients.
Oui, effectivement. C'est un exemple concret de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, tout début juillet. Et avant de parler de l'exemple concret de Goin, j'aimerais bien votre avis. Vous l'avez eu il y a longtemps, MiCA, Tanguy. Mais ça nous laisse dans une sorte de Far West. Alors, il y a ce qu'on dit officiellement et puis il y a concrètement un petit peu les clients qui se débrouillent, qui font leur choix eux-mêmes. Bon.
Oui, c'est vrai, on est encore dans une période un peu d'instabilité. Alors, nous, effectivement, chez Goin, on l'a eu il y a un an déjà. On était bien contents de ne pas avoir à subir cette période de stress sur les derniers jours avant la deadline. Mais clairement, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas du tout préparés à ne pas avoir d'agrément. Et donc, qui découvrent la situation et qui, à partir de maintenant seulement, commencent à se poser les questions de savoir ce qu'il faut faire de leurs clients, etc. Donc, on est encore dans une période un peu d'instabilité qui risque de durer quelques semaines.
Vous, un an après avoir obtenu l'agrément et dans ces circonstances où tout le monde se demande un petit peu où il va mettre ses fonds, vous voyez les conséquences concrètes chez Goin de cette situation-là ?
Oui, absolument. On voit les conséquences. Donc, comme Pauline le disait, 31 acteurs sur 120 en France, ça fait une quinzaine de pourcents, un peu plus.
Ça fait 15% au niveau français, ça fait 5% au niveau européen.
Oui, donc l'écrémage est fort. Et donc, il y a beaucoup de clients qui se retrouvent sur des plateformes non agréées et qui cherchent des solutions. Et on fait partie des acteurs qui sont consultés par ces gens-là pour organiser la transition et la gestion de leur portefeuille crypto.
Il y a évidemment ces plateformes qui se demandent comment faire pour leurs clients. Il va falloir aussi qu'elles se demandent comment faire fiscalement, comptablement, et il va y avoir beaucoup de différences. On remet les choses bien dans l'ordre. Stéphanie Némarcatias, 1er juillet donc, a sonné la fin de la récré pour la crypto. Ça y est, la fin de l'agrément MiCA, de la possibilité d'avoir l'agrément MiCA, et c'est le statut PSAN qui a disparu concrètement.
Exactement. Alors, je pense que là, on l'a bien compris, le mot clé de tout ce qu'on dit, c'est l'anticipation.
Ouais.
C'est-à-dire que de la même façon que des particuliers ont anticipé l'impossibilité de continuer à utiliser des plateformes, le sujet aujourd'hui, c'est quelles sont les plateformes qui ont anticipé le fait de ne pas pouvoir avoir ce fameux sésame. Il y en a beaucoup qui n'ont pas anticipé, mais en tout cas, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il n'y a pas 50 stratégies possibles. Il y a la stratégie de pivoter d'activité. Pivoter, ça veut dire changer de business model et éventuellement aller sur des services qui ne nécessitent pas l'agrément.
Oui.
Il y a la stratégie de se dire, et si je cédais ? Oui, mais quoi ?
Qu'est-ce que je cède ?
Voilà, y a un gros sujet autour de qu'est-ce que je cède et comment je valorise quand même tout le travail qui a déjà été fait. Et puis, il va y avoir aussi potentiellement des liquidations de sociétés. Et en fait, ce qu'on voit avec Jérémy, c'est que pour tous ces scénarios-là, il y a des conséquences comptables, fiscales, à anticiper pour justement optimiser ce passage à la fois sur la fiscalité des dirigeants, de la fiscalité des entreprises elles-mêmes. Donc, beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui.
Alors, prenons ça dans l'ordre. On choisit de céder, les conséquences fiscales quand on choisit de céder, par exemple, Stéphanie.
Lorsque la société décide qu'elle ne va pas pouvoir continuer et qu'il vaut mieux aller vers le rachat, là, il va déjà falloir se demander qu'est-ce que je cède. Si je cède une société, fiscalement, ce n'est pas la même chose que si je cède un fonds de commerce, par exemple. Donc, il y a un gros sujet déjà sur ce que je cède. Est-ce que c'est de la plus-value de cession d'action ? Est-ce que c'est de la plus-value de cession de fonds de commerce ? Beaucoup de conséquences fiscales à étudier en amont. Et puis d'ailleurs, il y a une actualité assez intéressante en ce moment. On vient d'avoir un guide qui a été publié par le Trésor public, justement sur la valorisation des sociétés. Alors, je ne parle pas de crypto, je parle vraiment de la valorisation des sociétés elles-mêmes. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu un guide aussi précis sur les méthodes de valorisation, par exemple des actifs immatériels. Et je pense que là, il y a un vrai sujet d'aller creuser quelle est la valeur d'une société acceptable aux yeux du fisc et aussi acceptable aux yeux d'un repreneur éventuel.
Alors, je cède au niveau comptable, c'est quoi les conséquences ? Par exemple, Jérémy ?
Les impacts au niveau comptable, c'est vraiment sur la valeur de l'entreprise au niveau global. Je veux vendre une entreprise. Comment je la valorise ? Et justement, à juste titre, Stéphanie commençait à le présenter. Comment j'arrive à valoriser ? Qu'est-ce que je valorise ? Juste les titres. Comment j'arrive à valoriser les actifs financiers qui sont dedans, les actifs cryptographiques ? Et derrière, il y a toute cette procédure de due diligence, d'accompagner justement ce client à réaliser toute la documentation pour aller le présenter justement à de potentiels acheteurs. Et on l'énonçait juste avant, Et il y a cet aspect comptable, ok, de comment je valorise ça, mais il y a l'aspect économique de qu'est-ce que je vends. Est-ce que je vends une technologie ? Aujourd'hui, ce n'est pas réellement ce qui est vendu.
Non, oui, c'est vrai.
Aujourd'hui, ce qui est vendu, c'est un agrément qui peut être valorisable, mais ça ne concerne pas justement nos acteurs actuellement qui ne l'ont pas. Aujourd'hui, ce qui est réellement vendu et qui parfois n'est même pas dans le bilan, et c'est ça qu'il faut essayer de l'évaluer en extra-comptable, je dirais, c'est l'attraction client. C'est la captation justement de nouveaux clients, l'AUM que j'ai déjà aujourd'hui, les actifs sous gestion, bien sûr aussi les revenus récurrents. Tout ça, ce sont des métriques hyper importantes qui permettent justement de valoriser à la hausse ou à la baisse des entreprises ACD.
À l'inverse, je pivote. Ah, c'est compliqué de pivoter dans ce secteur-là, exactement. Stéphanie.
C'est tout à fait compliqué de pivoter. Il y a aussi des conséquences fiscales au pivot lui-même. C'est-à-dire que si vous avez accumulé, par exemple, des déficits dans la société qui sont reportables les exercices suivants, il y a une question qui va se poser, c'est est-ce que je peux continuer à utiliser ces déficits pour baisser mon impôt futur ou pas. Bon, c'est des sujets comptablos fiscaux qui sont vraiment essentiels pour driver en fait la suite de l'entreprise.
Et à l'inverse, si je liquide complètement.
Et si je liquide, il y a beaucoup de sujets justement sur la liquidation. Au niveau des actionnaires, est-ce qu'il va y avoir du revenu distribué et donc taxable ? Est-ce que réellement il n'y a absolument rien dans cette société et dans ce cas-là, je perds les déficits reportables. Donc, liquider, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Il faut envisager vraiment toutes les options avant de prendre sa décision.
Moi, Jérémy, ce que j'aimerais savoir, c'est combien d'entreprises sont venues vous voir ou en tout cas viennent se renseigner pour avoir ce genre d'informations. J'imagine que c'est un peu la panique à bord, un peu comme ce qu'on a vu là avec Binance, c'est-à-dire on fait tout après la date butoir alors que ça fait quand même des mois qu'on dit que ça va arriver. Ces entreprises-là savaient si elles allaient l'obtenir ou pas, sauf celles qui étaient dans la course vraiment à la fin. Mais est-ce que vous avez des clients qui viennent voir pour ça spécifiquement et pour faire ce choix?
Totalement. Ils commencent à venir nous voir, justement, et c'est un peu le sujet. On pensait qu'en fait, le 1er juillet, ça allait être fini, que tout allait être prévu en avance, en amont, et que le 1er juillet, on allait avoir une image claire. La réalité, c'est surtout que certains acteurs se sont réveillés un peu plus tard et qu'ils viennent encore aujourd'hui nous voir pour justement dire « je suis à telle situation, qu'est-ce que je peux faire ?» L'agrément, ce n'est pas possible. Je pense devoir céder la société, liquider la société. Comment je fais ? Et c'est là où on arrive un petit peu parfois à des cul-de-sac de quelqu'un qui veut vendre une société. J'ai des exemples d'acteurs qui voulaient céder leur société, mais qui au final n'avaient pas les bonnes métriques et pas les bons assets à justement valoriser cette entreprise et qui se retrouvent à devoir liquider et à présenter à leurs clients le fait que ils sont obligés aujourd'hui d'aller chercher de nouvelles plateformes qui, elles, sont agréées.
On est concrètement face à un marché qui se consolide. Moi, je vous le dis clairement, il y a un an et demi quand j'ai pris l'émission, je ne pensais pas que le marché ressemblerait à ça. Un an et demi plus tard, aussi vite et avec une telle, vous allez me dire ce que vous en pensez derrière, telle récupération des banques.
Oui.
Stéphanie.
Complètement.
C'est incroyable.
Complètement. C'est justement...
C'est à se demander si ça n'a pas été fait exprès.
En fait, on pouvait s'attendre à ce que la réglementation aboutisse à une situation assez similaire à celle que vivent les banques. Et donc, forcément, le schéma se répète, c'est-à-dire qu'on cherche à réguler davantage. Mmh. Les banques, elles, savent réguler, elles ont la connaissance. Et donc, elles s'adaptent plus facilement aux réglementations, justement. Donc ça, c'est une évidence. Maintenant, je pense qu'on n'est pas non plus au bout. C'est-à-dire que même les banques qui ont réussi cette étape, et les établissements de façon générale, vont avoir maintenant d'acuite à gérer. C'est-à-dire récupérer
toutes les
affaires.
J'allais vous le dire, bien sûr.
Et donc, c'est pas fini. Au contraire, chacun a son chantier. Et je pense que les acteurs qui ont les agréments aujourd'hui ont encore plusieurs chantiers pour se mettre parfaitement en conformité.
Est-ce que les entreprises sont attendues comptablement et fiscalement, Jérémy, au tournant, maintenant, après cette étape-là ?
Elles sont attendues, effectivement. Il faut savoir qu'en fait, comptablement, il y a eu une nouvelle mise à jour depuis le début de l'année qui fait qu'aujourd'hui, notamment, les stablecoins sont comptabilisés, un plan comptable vraiment dédié pour ça. Elles sont attendues surtout de bien gérer financièrement, comptablement, justement, leurs états financiers. Elles ne sont pas attendues que là-dessus, elles sont attendues sur au niveau de la conformité, au niveau de la cybersécurité.
Oui.
Elles doivent montrer que ce sont de vraies structures financières, je dirais même, qui savent gérer leur entreprise pour justement assurer la sécurité des fonds qu'elles détiennent pour leurs clients.
Et là, vous allez me dire, c'est pour ça qu'on a eu l'agrément MiCA, c'est pour ça qu'on a travaillé aussi chez Goin, Tanguy.
Absolument. Ouais. Quand on a créé Goin, c'était avec la certitude que le marché des cryptoactifs et les investisseurs en crypto-actifs allaient être protégés comme tous les autres investisseurs.
Vous saviez que ça allait arriver à ce genre de maturité ?
Absolument, ouais. Parce que finalement, sans vouloir, ce qu'on voit dans la réglementation MiCA, c'est ce qui s'applique dans la réglementation financière traditionnelle, la protection des investisseurs, avec quelques sujets spécifiques, notamment sur la cybersécurité, puisqu'il s'agit d'actifs numériques. Mais autrement, on reprend exactement les mêmes principes qui existent déjà dans la finance traditionnelle.
Oui, cela dit, pour vous, c'est une bonne chose. Ça veut dire que finalement, il y a une sorte de crédibilité. Le marché va être plus sain, peut-être, le secteur.
Oui, je pense que les investisseurs vont être mieux protégés avec la réglementation. Et donc le fait que le marché soit plus restreint, il y a quand même suffisamment d'acteurs, il faut s'en réjouir, hein, 31 acteurs agréés par l'AMF, c'est finalement plus que ce qui avait pu être anticipé. Donc ça laisse une bonne diversité pour laisser s'exprimer différents types d'offres, et que donc les investisseurs aient le choix entre plusieurs prestataires. Et en même temps, ce sont ceux qui ont fait le job pour la protection des investisseurs qui restent, et c'est une bonne chose pour eux. Et puis, pour revenir sur le point des banques qui reprennent le marché, effectivement, ils ont l'habitude de la réglementation. Et comme on le disait, c'est la même chose que pour la finance traditionnelle. Mais il y a encore beaucoup de sujets d'innovation qui permettent à des fintechs de garder une petite longueur d'avance, à mon avis.
C'est quoi, par exemple ?
Un, c'est être en capacité de couvrir différentes blockchains dans son offre de service. La plupart des banques, aujourd'hui, elles vont faire Bitcoin, Ethereum, peut-être une autre. Chez Goin, on en fait plus de 20. Ouais. Donc, ça fait déjà une très grande diversité. Et puis, il y a tout l'accès à la finance décentralisée. On a des protocoles de finance décentralisée qui sont extrêmement intéressants, qui offrent des problématiques nouvelles, sur lesquelles il faut beaucoup d'innovation. C'est pas encore couvert par la réglementation. Alors, ça va venir, hein, c'est sûr.
Mais oui, on l'a dit.
On est dans un chemin d'évolution constante. Mais ça laisse la place à des acteurs type fintech comme Goin pour s'exprimer et avoir des offres un peu différentes de ce qu'ils peuvent trouver, de ce qu'on peut trouver ailleurs.
Vous, concrètement, comme vous avez l'esprit un peu plus libre depuis un an et depuis que vous avez eu cet agrément MiCA, donc assez tôt par rapport au reste du secteur, vous avez réussi à développer quoi ? Vous vous êtes mis sur quel chantier en un an ? Ça vous a permis de développer quoi ?
Alors justement, on a développé des accès à la finance décentralisée, oui, qu'on peut offrir depuis une infrastructure de conservation régulée. Alors c'est des services qui sont accessibles que par un certain nombre d'investisseurs pour le moment, mais c'est des choses qu'on sait faire. On a aussi développé notre base de clients et puis on a développé des partenariats qui sont en cours avec des acteurs qui décident de pas aller vers MiCA ou qui ne l'auront pas. Et donc, on participe à la concentration du marché et c'est une bonne chose.
On peut les connaître, ces acteurs, ou on
non,
peut pas les connaître?
Non, pas pour le moment.
Je m'en doutais, j'ai posé la question, mais bon. Vous parliez de DAC8 tout à l'heure, Stéphanie. On redit ce que c'est et pourquoi ça a été mis là. C'est une réglementation qui est entrée en vigueur en janvier dernier.
Oui, alors DAC8, en fait, c'est une directive européenne à la base, donc qui va s'appliquer dans toute l'Union européenne. Chacun des États membres va devoir dans chacun des États membres, les acteurs qui sont sous MiCA vont devoir collecter les informations concernant leurs utilisateurs à chaque fois qu'il y a des utilisateurs dans un des pays de l'Union européenne. Et le nombre d'informations et la variété de ces informations est vraiment très, très large. Mmh. Ça va de l'identité de l'utilisateur à l'intégralité des opérations qui sont faites, toutes les cryptos qui sont concernées, etc. Et donc, l'administration fiscale, en France et dans les autres États membres, va récupérer ces informations-là. Et elles vont pouvoir aussi communiquer entre elles, les administrations fiscales, pour justement mettre en regard les informations déclarées et les informations collectées. Et on le sait, ça va donner lieu quand même à une vague de contrôles fiscaux quand les obligations déclaratives ne sont pas faites correctement.
Dans le meilleur des cas, une vague de contrôles fiscaux, on n'espère pas une vague de cyberattaques, parce que c'est une grande inquiétude parmi les acteurs du secteur, c'est qu'il y ait trop d'informations en circulation, qu'elles arrivent chez des acteurs qui ne sont pas assez sécurisés et que ça donne lieu à la série de criminalité qu'on a connue depuis 2025.
Il y a beaucoup d'enjeux justement autour de DAC8. Alors il y a la sécurité. Je pense que c'est l'enjeu numéro un. Il y a côté entreprise, il y a la capacité de faire ce travail qui est quand même gigantesque hein, d'un point de vue technologique. En plus de l'aspect réglementaire, fiscal, juridique, il y a vraiment l'aspect technologique de récupération de toutes ces informations-là. Et puis ensuite, on a côté particulier, côté investisseur, la question de que va-t-il se passer avec ces informations collectées ? Est-ce qu'on va avoir bientôt des informations pré-imprimées dans vos déclarations d'impôts ? Ou est-ce que ça sera toujours un système déclaratif avec...